dernier, et une question qu'on m'a posée m'a fait prendre conscience que j'avais été un peu confus peut-être, et donc j'ai à cœur de clarifier la chose pour chacun, à mesure où c'est des choses quand même qui ont une importance pour notre marche. Il s'agit du passage de 2 Thessaloniciens 2, où je vais juste relire les deux premiers versets. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Dans ce que j'avais dit, il pouvait y avoir une confusion dans ce qui est exprimé par, au premier verset, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Et puis à la fin du deuxième verset, le jour du Seigneur. Et je voulais justement lever toute ambiguïté sur cette question-là. L'expression « jour du Seigneur », on la trouve essentiellement dans l'épître aux Thessaloniciens. On la trouve aussi dans 2 Pierre. Et on trouve d'autres expressions voisines. On a par exemple l'expression « le jour de Christ » ou « le jour de Jésus-Christ ». Et on a aussi l'expression « le jour de Dieu ». Alors, le jour de Christ, on la trouve 3 fois dans l'épître aux Philippiens. Et je ne vais pas les lire maintenant, chacun peut y retrouver. C'est une expression qui est à rapprocher, on y reviendra, à ce qui est appelé là la venue. C'est en rapport avec la venue du Seigneur pour les siens. Alors que l'expression « le jour du Seigneur » ou « le jour de Dieu » fait écho à l'expression qu'on trouve abondamment dans l'Ancien Testament, « le jour de l'Éternel » et bien souvent « le jour, ce jour-là ». On retrouve sans mention de précision, sans précision autre, ou dans des contextes où il ressort sans équivoque quand on lit, c'est dans Ésaïe par exemple, ou dans d'autres prophètes, qu'il s'agit d'un jour particulier dont il est déjà parlé ailleurs à plusieurs reprises, le jour de l'Éternel. Et dans le contexte des Thessaloniciens, si on revient à la première épître aux Thessaloniciens, il est remarquable qu'il y a cette perspective du retour du Seigneur, globalement, qui apparaît abondamment. On a au chapitre 1er de la première épître aux Thessaloniciens, dernier verset du chapitre, où l'apôtre rappelle, fin du verset 9, « Comment vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils ?» qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Un verset particulièrement important, en ce sens qu'il dissocie bien « Attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. » On a donc 2 choses différentes, la venue du Seigneur pour chercher les siens et la colère qui vient. Au chapitre suivant, à la fin du chapitre, verset 19, « Quelle joie, car quelle est notre espérance et notre joie ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous, devant notre Seigneur Jésus, à sa venue? Car vous êtes notre gloire et notre joie. » La venue du Seigneur est envisagée là, d'une manière un peu similaire à ce qu'on trouve dans les Philippiens sur le jour de Christ, et qu'on peut rapprocher de 2 Corinthiens 5, où il nous est parlé du tribunal de Christ. C'est un moment où seront manifestées toutes choses, et là, vous Thessaloniciens, pour moi Paul devant notre Seigneur, vous serez le témoignage que j'ai accompli mon service. On retrouve un peu cette pensée au chapitre suivant encore, où c'est d'une prière, verset 12, « Que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Alors c'est un double, un côté un peu similaire et en même temps on va plus loin. Il y a le côté affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père, la manière dont nous paraîtrons devant le Seigneur. Mais cela, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, on chevauche déjà sur une étape suivante. Le Seigneur vient chercher les siens et puis réapparaîtra en gloire avec tous ses saints. Si on fait juste un saut dans la deuxième épître, je ne vais pas lire le passage, il est un petit peu difficile à lire, il faut bien enchaîner les propositions, mais on a cette même pensée au premier chapitre où il y a juste cette expression, que je retrouve la ligne, quand il viendra, verset 10, quand il viendra pour être dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, avec tous ses saints. Quand le Seigneur Jésus reviendra en gloire, nous serons avec lui en témoignage de l'efficacité de l'œuvre du Seigneur, de la grandeur de cette œuvre. Et si on revient dans la première épître, on a ce passage que nous connaissons bien au chapitre 4, où justement Paul entre plus dans la pratique, dans l'aspect pratique de comment se déroulera ce moment où le Seigneur viendra chercher les siens. Verset 16, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. À la rencontre du Seigneur en l'air. Le Seigneur viendra nous appeler à sa rencontre. Et on peut dire que cet aspect de la venue du Seigneur, pour les siens, c'est comme une espèce de secret pour les croyants. Et c'est quelque chose qui se fera, non pas d'une manière spectaculaire, mais d'une manière subite, mais invisible, pour les hommes de ce monde qui resteront, sauf que brusquement, tous les croyants ne seront plus là. Mais nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur en l'air. La venue proprement parlée du Seigneur, la parole n'est pas beaucoup plus précise que cela, ne sera pas en elle-même visible pour le monde qui n'a pas voulu de lui, sauf par son effet, tous les croyants enlevés de la terre. Et au chapitre 5 de cette même épître, juste après, il y a ce, je crois que j'avais lu dimanche dernier aussi, « Pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin que vous en écrivez, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Et le verset suivant, « Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. » On peut remarquer que verset 8, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. C'est quand ils diront, ceux qui seront restés sur la terre. Et la distinction là est faite entre le Seigneur ressuscitant les siens endormis et enlevant les siens vivants au moment de sa venue, et l'autre temps, ce temps où il viendra comme un voleur, et où il nous est parlé d'une subite destruction qui viendra sur eux. Et donc, si on reprend le passage de 2 Thessaloniciens 2, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Voilà, vous connaissez ce que je vous ai dit concernant ce qui nous arrivera. Et si je paraphrase le verset, c'est nous vous prions, frères, vous connaissez ce que je vous ai dit concernant notre enlèvement avec le Seigneur. Souvenez-vous de ça et ne vous laissez pas troubler par ceux qui diraient que le jour du Seigneur est déjà là, le jour de la colère, le jour du jugement. On a deux choses bien distinctes qui sont mises côte à côte, mais dans un contexte où les Thessaloniciens pouvaient bien comprendre de quoi il s'agissait. Un peu plus loin, au verset 5, il leur dit « Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses ? Il les renvoie à ce qu'il leur avait enseigné oralement, ce qu'il leur avait redit dans sa première épître, et que maintenant il redit pour les rassurer. Attention, si le jour du Seigneur était là, nous ne serions plus là. Alors le jour du Seigneur en lui-même, il concerne quelque chose. Si on prend dans un sens le plus strict, le plus étroit, c'est le moment où le Seigneur apparaît en gloire pour achever, si on peut dire, le jugement. Si on le prend dans un sens un peu plus large, c'est toute la période d'épreuve qui se termine par ce moment-là. Et c'est ce qui est décrit dans les versets suivants que l'apôtre redécrit aux Thessaloniciens, des choses qu'il leur avait déjà dites et qu'il leur redécrit, pour les rendre attentifs que ne vous inquiétez pas des mauvaises choses. Ne vous laissez pas troubler par des choses qui, dans une certaine mesure, on peut quand même mettre des guillemets, ne vous concernent pas. Oui, ça nous concerne quand même, en ce sens que, à ce moment-là, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant que nous pouvons témoigner de l'œuvre du Seigneur et parler de Christ. Alors qu'après, nous ne serons plus là et, si on peut dire, la porte sera fermée, pour prendre l'expression de Matthieu 25. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous connaissez ce qui nous concerne. Et en rapport avec ce que nous avions considéré dimanche dernier, veillez pour être prêt quand le Seigneur viendra. Cette vigilance passe par cette distinction. Qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons non pas le jour du Seigneur, nous attendons le Seigneur venant pour nous enlever avec lui. L'Épître aux Corinthiens, Corinthiens 15, parle d'un clin d'œil. On ne se prépare pas en un clin d'œil. Donc c'est évidemment quelque chose qui nous interpelle sur toute notre marche, avec les deux côtés, voir le Seigneur, être avec lui. Et puis, être trouvé l'attendant. Mais ne vous laissez pas bouleverser. On a toutes sortes, si chacun peut relire pour lui-même, ce que l'apôtre repasse en revue comme des caractères de ce que seront ces temps qui suivent l'enlèvement de l'Église. Il y a des choses des ombres qui ressemblent à ces choses-là. Et la parole parle à différentes occasions de gens qui se diront être le Christ et qui prétendront qu'ils sont le Christ qui revient, avec des temps de troubles et des temps de d'épreuves. Mais ce temps, ce jour du Seigneur, ce jour de l'Éternel, c'est un temps particulier qui viendra après l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si j'ai clarifié ce qui a pu être confus dimanche dernier.
Seigneur va venir selon sa promesse. Nous sommes gardés de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre, Apocalypse 3, verset 10. Et le Seigneur nous dit, « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3, 11. Et le Seigneur nous dit, Apocalypse 22, par trois fois, il dit, « Je viens bientôt. » Apocalypse 3, Apocalypse 22, le verset 7. Voici, je viens bientôt. On pourrait les lire, ce verset 7.
Voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre.
Bienheureux ceux qui gardent la parole de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Et c'est le livre du jugement, où Dieu jugera alors la terre habitée tout entière. Et le verset 7, ou verset 12 de ce chapitre 22,
Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre.
Et je viens bientôt, la récompense est avec moi. La récompense, comment nous avons ainsi gardé la parole, comment, non pas seulement la prophétie de ce livre, mais toute la parole de Dieu que nous a donnée pour la garder, la parole de la patience de Dieu. Et il y a aussi le verset, comme nous l'avons chanté, le Cantique 174, Apocalypse 22, je crois que c'est versets 16 et 17.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie.
Et la racine et la postérité de David, c'est pour Israël, cela. Mais pour l'Assemblée, c'est que le Seigneur, c'est l'étoile brillante du matin. Et c'est lui que nous attendons. Et nous le verrons ainsi, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Et puis, alors, le Seigneur nous dit à la fin, au verset 20,
celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus.
C'est l'épouse qui parle pour la première fois, la seule fois. L'épouse et l'esprit et l'épouse disent, viens. Nous attendons ainsi le Seigneur Jésus. Et en attendant, comme nous l'avons lu, Apocalypse 3, verset 11, il faut garder la parole de sa patience et tenir ferme ce bon dépôt que le Seigneur nous a confié, comme l'apôtre Paul le dit à son cher enfant Timothée, 2 Timothée 1. Garde le don, bon dépôt que nous avons reçu de Dieu, c'est-à-dire toute la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, nous la garder, la vivre dans toute sa vérité et ainsi d'attendre vraiment de cœur le Seigneur Jésus qui va venir nous chercher tous.
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, verset 64. Et Rebecca leva ses yeux et vit Isaac. Et elle descendit de dessus le chameau. Or, elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur dit, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites, et Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa femme, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Rebecca est, dans l'Ancien Testament, une image de l'Église, une image de l'épouse. Et nous voyons, avant la rencontre de Rebecca avec Isaac, que Rebecca lève ses yeux et voit Isaac. Est-ce que nous avons les yeux qui se lèvent vers le ciel? Et dans cette attente, est-ce que nous voyons quelque peu le Seigneur qui vient nous chercher? Il est proche, il vient nous chercher, et Rebecca, dans cette attente, elle lève les yeux, et Rebecca leva ses yeux et vit Isaac. Est-ce que nous voyons le Seigneur, le divin époux, venir? Et au verset 65, nous voyons que elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ?» Nous savons que le serviteur est une image aussi du Saint-Esprit. Et nous voyons donc qu'il y a cet entretien particulier entre Rebecca et ce serviteur. Et quel est le but de cet entretien? Eh bien, elle désirait déjà connaître cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre. Est-ce que nous avons à cœur dans la parole de Dieu de sonder les Écritures pour connaître Christ, cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Cela fait partie de notre responsabilité. Est-ce que nous avons à cœur de connaître intimement dans les Écritures cet homme qui vient à notre rencontre? Cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre. Qu'en est-il de notre amour pour Christ? Qu'en est-il de notre intérêt pour sa personne? Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Encore un passage bien connu dans l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 5. Au milieu du verset 25. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Dans ces versets que nous venons de lire, nous voyons d'abord l'œuvre de Christ qui est passée. Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Dans le chapitre 5, au verset 2, il nous est dit que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. C'est son œuvre passée. Son œuvre présente, nous la trouvons dans le verset 26, « Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. » Son but aujourd'hui, c'est de la sanctifier et de la purifier. C'est un travail qui peut être visible dans son assemblée. Ça peut être un travail qui est invisible, mais c'est un travail qui est secret et nécessaire. Pourquoi ? Parce que il va se présenter à lui-même, son épouse, son église, dans le ciel, et il désire cela présenter dans toute sa beauté, dans toute sa pureté, belle, sans division et glorieuse. Et le Seigneur désire nous introduire dans le ciel comme irréprochable. Et c'est pour cela que son travail, peut-être que nous ne le voyons pas à travers toutes les divisions dans la chrétienté, tout ce qui est en rapport avec notre responsabilité, mais nous savons qu'il en prend soin continuellement, que son travail sera complet, sera terminé, et il va se la présenter, comme il nous est dit, à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Voilà son but, voilà son œuvre future. Et bien que nos yeux soient tournés vers le ciel pour attendre sa venue, sachant qu'aujourd'hui, eh bien, Christ agit comme l'époux de l'Église. Il la sanctifie, il sanctifie l'épouse en la purifiant. Il nous est dit que c'est par le lavage d'eau, par la parole, il la nourrit, il la chérit. Que nous soyons prêts pour son retour.
Encore juste lire les versets que dans l'évangile de Jean où le Seigneur lui-même parle à ses disciples de ce consolateur que nous avons maintenant avec nous dans ce chemin vers ce moment où nous verrons le Seigneur, où nous serons avec lui. En Jean 14 d'abord, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Au verset 25, je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas moi comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Chapitre 15, verset 26, quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi. Chapitre 16, verset 7. Toutefois je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et puis encore, verset 12 déjà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et ils vous annonceront les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Cantique 247. 52, strophe 4. Viens.